Vous écoutez France Musique.
Le matin des musiciens, Arnaud Merlin.
Aujourd'hui, Jaco Pastorius avec Frédéric Monino et François Lézot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 92e émission du Matin des musiciens jazz du mardi. Aujourd'hui, c'est une étoile filante que nous allons tenter de visiter en la personne de Jaco Pastorius, bassiste de génie, compositeur inspiré, chef d'orchestre débordant d'idées, créateur incontesté de la basse électrique moderne, foudroyé en pleine jeunesse, à l'âge de 35 ans seulement, en 1987, au terme de longs mois d'errance et de souffrance. On privilégiera ce matin le musicien, sans pour autant occulter l'homme, ses fulgurances et ses faiblesses. On admirera la précocité de l'instrumentiste, pétri de jazz, de funk et de rhythm and blues, prodige de ses musiques puissamment rythmiques. On suivra ses premières aventures aux côtés de son camarade Pat Metheny. On verra éclore son talent dans un premier album éponyme avant de le retrouver aux avant-postes du plus grand groupe de l'époque, Weather Report. Et au sortir de cette splendide épopée où il fait jeu égal avec le claviériste José Vinul et le saxophoniste Wayne Shorter, Jaco Pastorius se lance dans un autre défi, celui du big band. Word of Mouth vivra deux vies en parallèle, en studio et sur scène, stupéfiant son auditoire par la richesse d'invention de son concepteur. Magicien du casting, Pastorius compositeur s'y épanouit dans une palette colorée où se fondent ses influences et ses amours musicales, de Jean-Sébastien Bach aux Beatles en passant par Charlie Parker. Quant au bassiste qui joue sur un instrument sans fret, ce qui accentue encore son expressivité vocale, il continue d'innover, explorant le jeu en harmonique, multipliant les effets de manière toujours musicale. Et pour nous guider dans ce corpus météorique et flamboyant, j'ai le plaisir de recevoir ce matin le bassiste Frédéric Monino, qui connaît parfaitement l'œuvre de Pastorius, et le batteur François Lézot, qui partage avec lui l'amour et la science de ce répertoire. Bonjour Frédéric Monino.
Bonjour Arnaud.
Et bonjour François Lézot.
Bonjour Arnaud.
Frédéric Monino, Jaco Pastorius nous a quittés en 1987. Je pense que vous n'avez pas pu le connaître.
Non, je n'ai pas eu la
chance. Est-ce que vous l'avez vu jouer ?
Non, non plus.
François, vous avez vu jouer Weather Report, j'imagine.
Je l'ai vu à Paris plusieurs fois. Un concert extraordinaire avec Weather, de la grande époque, magnifique. Un concert tragique avec Brian Melvin. Le malheureux Pastorius était caché derrière son ampli de basse et une grande casquette devant une salle comble consternée. Et je l'ai vu à New York aussi, ça c'était très étrange, avec une sorte de word of mouth qu'il avait composé pour l'occasion. Il y avait John Faddis dedans.
Son orchestre personnel.
Voilà, dans un club. C'était très étrange, c'était un mélange de grands musiciens et d'amateurs. Ouais. Il avait des pancartes avec des A, des B et des C pour indiquer les passages harmoniques de ses morceaux. C'était tout à fait curieux et John Faddis nous disait après « Bon, je suis là parce que Jaco Pastorius est tellement merveilleux, mais plus jamais il va m'entraîner dans ce genre de choses. »
En définitive, c'est toute la contradiction de ce musicien qui avait de graves problèmes personnels, de graves problèmes de santé et qui est mort très jeune, mais en laissant une œuvre formidable sur quelques années seulement, Frédéric.
Moins de 10 ans. Ouais. De 76 peut-être à 83, 85 pour les plus optimistes.
On va parcourir cet itinéraire ensemble, si vous le voulez bien, ce matin, dans le Matin des musiciens sur France Musique. Et tout de suite, on commence par un des meilleurs enregistrements, celui qui a vu arriver Jaco Pastorius dans le groupe Weather Report. We'll be right back. Ça s'appelle Barbarico, c'est une composition de Jaco Pastorius qui figure sur l'album Black Market de Weather Report, enregistré en 1976. C'est l'apparition de Jaco Pastorius au sein de ce groupe et là on trouve déjà tout son style, Frédéric Monino.
Une ligne de basse, variation constante, ouais. Presque un thème en soi, un thème très, très épuré, très simple, très rythmique, et lui dessus qui déroule les lignes de basse sans jamais faire quasiment deux fois la même.
Il a 25 ans.
Et il vient de Floride. Son père est organiste. Il est très influencé en Floride, justement. C'est le croisé de plusieurs styles musicaux, où il y a beaucoup de funk, de fusion, de rhythm and blues, de musique des Caraïbes et du reggae. Et donc, il est très influencé par toutes ces musiques.
Et puis, bien sûr, ce qui bat son plein à l'époque, à la fin des années 60, quand il est adolescent, c'est le funk, et en particulier la musique de James Brown. Et il met en boucle sur son petit lecteur de disques à l'époque, ce Chicken de Pee Wee Ellis. Dites-moi, Frédéric Monino, je ne reconnais pas la version de Pee Wee Ellis, de Chicken, qui joue ici ?
Eh bien, c'est Jaco Pastorius qui va jouer tous les instruments, donc les sax, la guitare, la batterie, puisqu'il était batteur à ses débuts, et évidemment la basse, et déjà on entend...
Alors nous sommes en quelle année ici ?
Là, nous sommes en 68, et il est donc chez lui, et avec un ami à lui, ingénieur du son. Et
qui lui a prêté un magnétophone.
C'est ça, ils font cette prise... en home recording, comme on dit aujourd'hui. Et c'était peu fréquent à l'époque, même très novateur déjà.
Jaco Pastorius a 17 ans, qui joue donc de plusieurs instruments sur cet enregistrement tout à fait historique, qui figure d'ailleurs sur un coffret qui s'intitule Portrait of Jaco, que l'on recommande aux amateurs, coffret dont on tire plusieurs exemples pour cette émission ce matin. On peut aussi le trouver pratiquement à la même époque, un petit peu plus tard, dans un enregistrement où... il est aux côtés d'un organiste, cela aurait pu être son père, il se trouve que là c'est Billy Burke, avec Bob Herzog, chanteur et batteur. Et ici c'est l'influence de Ray Charles qui transparaît. You were mine, If You Were Mine, Ray Charles avec Jaco Pastorius à la basse, c'était dans un club en 1970. Alors ici, on l'entend faire la rythmique et puis très vite, on va l'entendre enregistrer un premier solo sur un thème de Sly Stone. Sly Stone qui était un groupe très important à l'époque, The Family Stone, qui a beaucoup influencé Miles Davis. Notamment, on entend ici son premier solo. Thank you. 1971, l'année où Jacob Astorius fête son 20e anniversaire et un premier solo ici sur le Hire de Sly Stone au sein du groupe de Tommy Strand. Le rhythm and blues est très très présent dans les origines musicales de Jacob Astorius, Frédéric.
Oui, comme on peut l'entendre, c'est vraiment sa principale influence, ce qu'il a éduqué, ce qu'il a formé au début. C'est intéressant de remarquer la construction du solo et comment justement avec des lignes de basse qui doucement transforment. Il malaxe, j'allais dire, et il explore vraiment toute la tessiture du manche. À la fin du solo, on entend des octaves, des doubles notes, des sons qu'on n'entendait pas vraiment très souvent de la part d'un bassiste.
En 1972, on le retrouve avec l'orchestre de Wayne Cochran.
Houston, Texas. Make you wanna fly. Gonna start the pounding like a headache in your side. It's Allen Robinson, New Orleans. When the bassman start the bumping, it begin to tell the fire. Jocko, that's all of them. And when the horn start to blow, yeah, it make you feel high, high, high.
1972, Jacob Astorius, bassiste ici au sein du groupe de Wayne Cochran, les CC Riders. On entend bien ici le procédé de questions-réponses entre le chanteur et la basse de Jacob Astorius. C'est aussi au sein de cet orchestre que Jacob Astorius signe une de ses premières compositions, Amelia. We'll be right back. Amelia, une des premières compositions de Jacob Astorius enregistrée par l'orchestre des CC Riders. C'est une période assez heureuse pour Jacob Astorius qui découvre les joies de la tournée. Il joue sur des bateaux de croisière, il fait des tournées avec les CC Riders. Peut-être qu'il ne sera plus aussi heureux par la suite, Frédéric Molyneux.
C'est ce qu'il dit. Il dit que c'est une des périodes les plus heureuses de sa vie. Cet apprentissage et ses grandes tournées sur les bateaux.
Le funk, le rhythm and blues, tout ce qui est musique noire américaine populaire, bien sûr, constitue les sources essentielles de son apprentissage musical. Et puis, bien sûr, il y a aussi le jazz, celui du bebop, celui de Charlie Parker en particulier. Et on l'entend en 1973 jouer un thème de Charlie Parker, Dexterity, en solo. Et on l'entend vraiment respirer ici comme un chanteur. Dexterity, Charlie Parker, joué en 1973 à la basse en solitaire par Jacob Astorius. Quel type de basse il joue ici, Frédéric ?
Là, il joue une basse acoustique 5 cordes, donc accordée Milares sol do.
Il y a des frettes déjà encore ou il non, a enlevé les frettes ?
Il n'y a pas de frettes, mais ce n'est pas un instrument qui l'a séduit plus que ça.
Et l'instrument qu'il va adopter très vite par la suite, c'est un instrument du commerce où il a bricolé en enlevant les frettes lui-même ?
Il l'a fait bricoler ou il l'a bricolé. La légende dit qu'il l'a bricolé lui-même, mais en fait c'est son luthier, non, je ne me souviens plus le nom, qui l'a fait. Ouais. En faisant disparaître justement les frettes.
En deux mots, ça permet de jouer comme sur un violoncelle ou sur une contrebasse.
Il n'y a plus de repères sur le manche, enfin très peu il y en a, puisqu'il a enlevé les frettes, elle est défrettée, elle n'est pas totalement fretless, il y a encore les marques visibles.
Ce qui permet de jouer sur l'expressivité en jouant sur la touche de manière peut-être plus subtile que quand il y a des frettes, on peut dire ça.
Et avec un phénomène visuel d'être aussi peut-être plus juste que sur une véritable fretless. Il se servait pas mal du caractère visuel pour créer ses lignes de basse justement.
On l'entendait ici dans Dexterity, un thème de Charlie Parker. Il va reprendre un autre titre de Charlie Parker, enregistré en 1947 par le Bird avec Miles Davis. Ça s'appelle tout simplement Donnelly. On écoute tout d'abord la version de Charlie Parker. C'est un classique du jazz bebop, une sorte de démarquage du thème Indiana sur lequel Charlie Parker et Miles Davis ont co-signé ce Donnelly, enregistré en 1947. Et Jacob Astorius va reprendre ce thème à son compte en le jouant en duo avec le percussionniste Donnelly. C'est assez impressionnant, Frédéric Molyneux.
Ça a été cataclysmique chez les bassistes, ce qui s'est passé dans ce premier donc, titre de son album éponyme Jacob Astorius. Donc il va jouer cette pièce donc, de Charlie Parker, Donnelly. Il va faire un solo absolument stupéfiant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, les harmoniques, les démanchés, les cordes à vide. Il y a à peu près tout ce qu'on peut faire sur un instrument qui va être évoqué.
Tout son style est là.
Son style est là et puis il va rajouter aussi une modulation à la fin. Il va moduler en mi.
On va d'abord l'écouter et puis ensuite on va l'expliquer sur le plan harmonique. Thank you. Nous sommes en 1976, c'est ce Donnelly qui ouvre le premier disque sous son nom de Jaco Pastorius. Il s'appelle tout simplement Jaco Pastorius. Et j'imagine que ça a dû sidérer les bassistes de l'époque, Frédéric.
J'imagine mal être bassiste en 1976 et avoir ne serait-ce que 20 ans.
Alors on entend ce solo sur Donnelly après l'exposition du thème. Et il est vrai que comme on n'a pas de repère harmonique, puisqu'il n'y a pas de pianiste ou de guitariste à ses côtés, peut-être que si l'on ne connaît pas bien le déroulement harmonique, on peut se perdre. Et pourtant, il est vraiment tout à fait...
Pourtant, il joue sur la grille.
Bien sûr. Alors on va faire une petite expérience, si vous voulez bien, Frédéric. On va repasser ce disque et vous allez plaquer les accords au piano pour qu'on puisse se repérer sur le déroulement
de mon mieux.
Voilà. Merci Frédéric de vous être livré à ce petit jeu en jouant les accords derrière ce solo de Jaco Pastorius. C'est pas facile d'ailleurs, hein, parce que la mise en place de Pastorius, c'est très particulier.
Toujours un petit peu devant le temps.
Ouais, ouais. C'est une façon d'anticiper par rapport à
une certaine
au duo.
Une nervosité.
Qu'est-ce que vous en pensez, François Lézot, quand on l'entend en duo ici avec Don Elias, qui est un très bon percussionniste,
hein. Et comment ? Ce qui est très étonnant, c'est leur manière d'escamoter le premier temps quasi systématiquement, avec une précision, une densité rythmique commune qui est vraiment extraordinaire.
Quoi. Ce qui fait qu'effectivement, on a du mal à avoir des repères par rapport au début de la mesure. Effectivement,
oui, tout puisque... à fait. Hein. Ouais. Là, par exemple, pour plaquer l'accord, il faut aller viser où est le premier temps, c'est-à-dire une fenêtre de tir d'à peu près 1 milliseconde. Ouais. C'est un jeu de peau de banane permanente. Ça, d'ailleurs, c'est ce qui frappe beaucoup pour un batteur quand on écoute Pastorius. C'est l'extraordinaire densité rythmique. Ouais. Qui malheureusement n'a pas toujours été très bien imité, parce que Pastorius a été énormément imité.
Comme Charlie Parker pour les saxophonistes.
Oui, oui, bien sûr. C'est peut-être là d'ailleurs où on voit une définition du génie, c'est celui qui invente le nouveau classicisme. Mm-hmm. C'est-à-dire, après lui, tout le monde joue comme lui. Mm. Hein, ça devient la référence absolue. À une époque, c'était même assez polluant, c'est-à-dire il n'y avait plus un seul bassiste qui jouait dans les graves.
Ouais, ouais.
Et alors que Pastorius, lui, il jouait tout.
On l'entendait ici dans Donnelly, un thème de Charlie Parker. Il connaissait bien le jazz. Il l'avait aussi en partage avec son jeune camarade Pat Metheny, qui lui aussi était très précoce. Et en 1975, Pat Metheny et Jaco Pastorius enregistrent avec le batteur Bob Moses un standard, All the Things You Are. À la guitare, Bob Moses à la batterie, Jacob Pastorius à la basse. C'était en club en 1975 sur un standard, All the Things You Are, tout le style de Jacob Pastorius est déjà là, Frédéric Monino.
Absolument, son discours est déjà en place.
Alors si l'on parle de style, Frédéric Monino, ici on voit bien qu'on peut jouer du jazz avec une basse électrique. On n'est pas obligé de prendre la contrebasse et la basse électrique ne se limite pas à l'accompagnement de funk ou du rock'n'roll.
C'était vraiment quelque chose que Jaco a développé, se battre contre ce préjugé qu'on ne pouvait pas jouer de jazz à la basse électrique parce que c'était la bonne vieille contrebasse qui devait faire l'affaire. Il s'est battu un petit peu avec ça et il a réussi son pari, comme on peut l'entendre, d'intégrer ça dans le répertoire des standards et du jazz. Donc.
Alors si on entre davantage dans le style même de Jaco Pastorius, si vous voulez bien rejoindre votre basse, Frédéric, on va prendre un exemple avec America, c'est un traditionnel américain. Vous allez peut-être nous le jouer une première fois, puis après on va détailler ce que Jaco Pastorius utilise comme effet dans ce titre. Thank you. Ça s'appelle America. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, il y a là-dedans à la fois l'utilisation des cordes à vide, les harmoniques naturelles, les harmoniques artificielles. On va détailler, si vous le voulez bien, peut-être tout d'abord en nous donnant un petit exemple de cordes à vide. Là, vous jouez plusieurs notes à la fois et il y en a une qui résonne parce c'est qu'effectivement, ça, vous ne jouez pas sur cette corde.
La corde à vide de là, donc, résonne. Et permet donc de faire une surimposition avec la mélodie donc de ce traditionnel d'América qui est joué au début.
Les harmoniques, c'est une caractéristique du style de Jacob Astorius. Alors il faut distinguer les harmoniques naturelles, les harmoniques artificielles, les harmoniques naturelles. Comment vous les obtenez ?
En n'appuyant pas sur la case complètement, en contrariant, on va dire, la vibration de la corde. Et suivant là où on est, au milieu de la corde, ou aux trois quarts ou aux deux tiers, on obtient une quantité d'harmoniques différentes. Sur la basse, il y a beaucoup d'harmoniques différentes.
On écoute les harmoniques naturelles. Et ce que vous appelez les harmoniques artificielles, c'est un autre procédé.
Une autre technique, cette fois-ci, c'est une technique de main droite qui consiste à mettre le pouce, on va dire simplement, sur la corde et toujours pareil, à contrarier la vibration. Et ça donne ce type de son.
Alors, vous jouez d'un instrument à 5 cordes, je crois, Frédéric.
C'est ça.
Vous pouvez jouer donc plusieurs cordes simultanément, parce que souvent, les lignes de basse traditionnelles, on jouait simplement une note à la fois, et puis ensuite, on va développer ce qu'on appelle les doubles cordes ou les doubles notes.
C'est exact. On va développer les doubles notes, et on va entendre tout à l'heure plusieurs exemples de Jaco, qui va encore une fois ouvrir la voie de ces doubles notes.
Il y a évidemment beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait donner. On va en écouter un par Jacob Astorius lui-même dans un enregistrement de son premier disque enregistré à la fin de 1975 et paru en 1976, où là on entend particulièrement ce qu'on appelle les notes mortes. Les notes mortes, ce sont des notes qui n'ont pas d'existence écrite.
Voilà, c'est ça, qui n'ont pas de hauteur définie, qui sont bloquées, on va dire, à la main gauche.
On les entend ici sur ce Come On, Come Over, où il a fait appel à toute une palanquée de musiciens absolument extraordinaires, parmi lesquels aussi Sam & Dave. Come on, come over, avec ces notes fantômes dans la ligne de basse de Jacob Astorius. Est-ce que ça existe aussi sur d'autres instruments, par exemple à la batterie, François Lézot ?
Oui, oui, justement. C'est là où on voit la connexion de Jacob Astorius avec la batterie. D'ailleurs, il était lui-même batteur à l'origine. On a la même chose à la batterie dans tous ces styles américains qui sont dérivés du marching band. C'est-à-dire que techniquement, la baguette frappe du bas vers le bas, c'est-à-dire qu'elle part de la surface de la peau pour remonter et revenir sur la surface de la peau. L'olive de la baguette est toujours très près de la peau. Et donc, on joue toutes les notes, dont certaines notes sont ghost, fantômes, à peine jouées, et donnent cette sensation comme ça, d'un fond sonore permanent. Pastorius a adapté ça donc, en jouant des notes qui ne sont pas jouées, qui sont une espèce de percussion très fine à l'intérieur du phrasé et qui servent aussi à solidifier le phrasé, à le rendre plus dense, plus épais et totalement en osmose avec le phrasé de batterie.
Alors si on parle de phrasé de Jacob Astorius, évidemment, on voit bien que ça vient en grande partie du Rhythm and Blues, et parfois ça ressemble même à des riffs de Rhythm and Blues. On en a un bel exemple avec Tin Town. Tin Town, c'est une composition que Astorius a signée pour le groupe Weather Report, qu'il a enregistré en 1977 sur le disque qui s'est sans doute le plus vendu de Weather Report, ça s'appelait Heavy Weather. On écoute tout de suite Tin Town par Jacob Astorius, et puis ensuite on verra comment ces riffs viennent du Rhythm and Blues. We'll be right back. Teen Town, une composition de Jaco Pastorius, enregistrée par le groupe Weather Report. Quand je dis enregistrée par le groupe Weather Report, quel est le batteur ici, François Lézeau?
C'est Jaco Pastorius lui-même qui a enregistré sur au moins 3 pistes différentes.
En plus de sa partie de basse.
Oui, il a commencé probablement par la Charley. Et il rajoute donc toutes ses interventions, caisse claire, tom, le tom basse probablement doublé avec un son, soit en ou par une machine, peu importe finalement. Ce qui est intéressant à écouter, c'est qu'en fait, sa conception de la batterie est très particulière. Aucun batteur n'aurait joué cette partie-là de cette façon-là. Et il a influencé beaucoup de monde. C'est-à-dire que ça a rendu perplexe beaucoup de batteurs. Sa façon à lui, en n'étant pas simplement un batteur, il a une vision extrêmement large du phénomène rythmique. Il y a de la percussion dedans, il y a de la batterie, il y a du jazz, il y a beaucoup de choses.
Frédéric Monino, cet arrangement fait entendre une ligne de basse, mais une ligne de basse doublée.
Doublée, oui, par José Minul.
Au clavier.
Au clavier, ouais. Qui donne un son particulier, ouais. Avec beaucoup de poids.
Alors, on va reprendre quelques extraits de ce thème de Teen Town. Si vous le voulez bien, François Lézeau et Frédéric Monino, vous prenez basse et batterie. Et puis, vous allez nous donner quelques petits exemples de boucles qui, évidemment, évoquent le rhythm and blues, comme si c'était des riffs de rhythm and blues, tout simplement, et ça vient de Teen Town. Merci Frédéric Monino et François Lézeau pour cette petite exploitation du thème de Teen Town en le tournant vers le rhythm and blues et vers ses boucles comme des riffs de rhythm and blues. Autre exemple de mise en place rythmique dans le thème River People enregistré en 1978 au sein du groupe Weather Report.
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
River People en 1978 avec ce décalage en 3-3-2 sur un cycle de 8 ans qui est tout à fait intéressant.
L'idée de décaler en fait la barre de mesure et de changer en fait les temps forts à l'intérieur de ces donc deux mesures à 4 temps dans cette ligne de basse très staccato, très mécanique.
Alors très souvent on voit dans les enregistrements de Pastorius qu'il est tout le temps dans le principe de la variation, qu'il ne met jamais les choses en place de la même manière et parfois la basse ne bouge pas. Ça, c'est par exemple le cas dans Kourou, qu'il enregistre sur son premier album.
Qui bouge presque pas. Parce que...
Ne pas bouger du tout, c'est impossible.
C'est ça.
Thank you. Une ligne de basse quasiment imperturbable pour Jaco Pastorius derrière le solo de piano de Herbie Hancock. C'était en 1976. On voit ici toute la capacité de concentration aussi de ce bassiste finalement très virtuose. Un autre exemple que l'on peut donner, Frédéric Monino et François Lézot, c'est le thème Avona qu'il va enregistrer en 1977 au sein de Weather Report. C'est l'un des plus intéressants si on veut l'analyser. Vous l'avez d'ailleurs fait dans le journal Jazzman il y a quelques années.
Oui, c'est une ligne de basse qui est, encore une fois, avec beaucoup de variations. Et on a toujours cette idée de temps fort de la mesure qui disparaît dans cette grille. On ne sait jamais où on est. Enfin, on ne sait jamais. Si, on sait, mais il donne cette impression de survoler la mesure.
On écoute Avona, un thème de Jaco Pastorius, enregistré par Weather Report en 1977 dans le disque Heavy Weather. Et puis ensuite, on détaillera un petit peu l'analyse.
Oui.
Wayne Shorter, saxophone soprano, Joseph Vinu, le clavier, Jaco Pastorius à la basse, Alex Acuna à la batterie. C'était en 1977, Havona, une composition de Jaco Pastorius, tout à fait remarquable, Frédéric Monino et François Lézot. Est-ce que vous voulez bien nous donner quelques petits exemples, notamment de la manière dont ce motif se déplace dans le temps, peut-être en prenant un tempo un peu moins rapide ? Qui est formidable dans cette mise en place, c'est que c'est le même motif, mais qui se déplace, il ne part jamais, donc il n'arrive jamais au même endroit de la mesure.
C'est ça, la tonique est sans arrêt déplacée, une fois sur le troisième temps, sur le deuxième, ou sur le quatrième. Rarement sur le premier d'ailleurs.
Alors François Lézot et Frédéric Monino, peut-être maintenant une grille de Havona, mais sur le tempo normal, tempo très rapide d'ailleurs, hein, difficile à jouer.
Assez rapide, on va faire juste la première grille texto d'Havona.
Havana de Jaco Pastorius, ici, par Frédéric Monino et François Lézot. François Lézot, il y a quelque chose de tout à fait intéressant dans cette musique, c'est la manière dont on est un petit peu entre les deux. On ne sait jamais si on est vraiment dans le ternaire comme dans le jazz ou dans le binaire comme ce qu'on a appelé le jazz rock, par exemple. Et puis, il y a un troisième terme qu'on emploie parfois, c'est le trinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le trinaire ?
Le trinaire, c'est donc la contraction de triolet et binaire. Triolet parce qu'il s'agit de superposer le shuffle avec un rythme binaire. Le shuffle, c'est un mouvement rythmique qui est basé sur la division de la pulsation en trois, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. On le trouve en Afrique, dans le Maghreb, en Asie, en Écosse, en Afrique du Sud, en Amérique, on le trouve absolument partout. Et on le trouve aussi dans le mouvement des trains. C'est-à-dire c'est un des éléments les plus forts de la culture américaine. Les trains ont un rythme en shuffle, et le shuffle est une des composantes du jazz. Le shuffle à la batterie, ça donne ça. La pulsation, c'est 1, 2, 3, 4. Et par-dessus, on met un rythme binaire, qui lui est deux fois plus long, la noire est deux fois plus longue, et qui fait...
Merci François Lézot pour ces explications du terme trinaire. Si on prend maintenant un exemple dans une musique, dans une composition écrite, Night Passage par exemple, Frédéric Monino, vous allez rejoindre François Lézot pour cette ligne de basse qui d'ailleurs n'est pas signée Jaco Pastorius, je crois, Frédéric.
Non, c'est Joseph Vinul qui a écrit cette ligne de basse qui ressemble étonnamment à une ligne de basse de Jaco.
Night Passage. Ce type de mise en place rythmique, ce type de jazz trinaire, si l'on peut dire, se retrouve aussi dans un enregistrement auquel participe Jaco Pastorius, aux côtés de Wayne Shorter, de Peter Erskine et d'autres encore. C'est un disque de la chanteuse Joni Mitchell en hommage à Charles Mingus, Frédéric.
Oui, pour être très attentif au début du titre avec une fusée de Jaco Pastorius.
Ça s'appelle Dry Cleaner from Day One. Dry Cleaner from Des Moines, Johnny Mitchell ici, en compagnie de Jaco Pastorius, qui n'a pas seulement fait la partie de basse, Frédéric Monino.
Effectivement, il a aussi arrangé ce morceau. On entend justement certaines de ses licks dans les parties de cuivre.
La présence de Jaco Pastorius, évidemment, dans ses propres enregistrements, est essentielle, mais aussi auprès de Johnny Mitchell. Et au sein du groupe Weather Report, il ne fait pas que jouer de la basse systématiquement. On l'entend aussi apporter vraiment une couleur particulière, même dans les compositions de Joe Zawinul, parmi les plus célèbres, comme Birdland. C'est lui qui tient la vedette, notamment quand il joue des harmoniques, par exemple.
C'est ça, dans cette fameuse mélodie que tout le monde connaît sur Birdland. Donc c'est une basse qui joue des harmoniques artificielles.
Enregistré en 1977 sur le disque Heavy Weather de Weather Report, avec cette introduction jouée aux harmoniques par Jaco Pastorius. Jaco Pastorius qui utilisait beaucoup ce procédé, Frédéric Monino, sur sa composition Portrait of Tracy. C'est même le fondement de la composition, la mélodie est bâtie sur les harmoniques.
Dans Portrait of Tracy, il n'y a quasiment que des harmoniques naturelles, avec un mouvement de basse et une mélodie qu'on va entendre en haut de l'accord.
On vous écoute, Frédéric Monino, et puis ensuite vous allez enchaîner avec une autre composition de Jaco Pastorius, Continuum, et vous serez rejoint par François Lézot à la batterie. Portrait of Tracy, suivi de Continuum. Merci à vous, Frédéric Monino et François Lézot. C'était deux compositions de Jaco Pastorius, éminent compositeur qui aime aussi arranger ses propres compositions. Alors parfois, il superpose à ses lignes de basse quelques inserts où il rajoute des effets, par exemple en double note. C'est ce qu'on entend ici dans ce Opus Pocus qui date de son premier enregistrement sous son nom en 1976, le disque Jaco Pastorius. On entend bien ici comment il superpose ses doubles notes à sa ligne de basse antérieurement enregistrée. Il va pratiquer le même effet au sein du grand orchestre qu'il va monter un petit peu plus tard et qui va porter le titre de Word of Mouth, qui va exister sous deux formes, sous la forme du concert et sous la forme de l'enregistrement. Et particulièrement dans ce titre, Liberty City, on trouve le même procédé. Un extrait de Liberty City par le grand orchestre de Jaco Pastorius, Word of Mouth, en 1981. On entend bien ces procédés de lignes de basse superposées. C'est peut-être là, avec le grand orchestre, qu'il donne le meilleur de lui-même sous son nom, en rassemblant toutes ses influences. Et là, ça va de Jean-Sébastien Bach aux Beatles. Et il va adapter notamment le Blackbird des Beatles. On se remet dans l'oreille le Blackbird original.
Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Paul McCartney en solitaire, chanteur, guitariste et percussionniste, ici en juin 1968 pour ce Blackbird. Alors Frédéric Monino, qu'est-ce qu'il va arriver à ce Blackbird originel de McCartney sous la plume de Pastorius ?
Et donc il va l'adapter, le transposer déjà pour commencer en la majeur, encore une fois pour utiliser cette corde à vide. Et cette fois-ci, en haut, on va entendre des tierces et toute la mélodie qui va être suggérée par le haut donc de cette ligne de basse et une surimposition avec Toots Feldman qui évoque aussi ce magnifique thème. L'harmoniciste, oui. Thank you.
Blackbird des Beatles, adapté par Jaco Pastorius pour son Word of Mouth Orchestra avec l'harmonica de Toots Thielemans. C'est un procédé qu'il applique aussi à d'autres musiques, comme cette fantaisie chromatique de Jean-Sébastien Bach, que l'on écoute ici sous les doigts de Gustav Leonhardt. Le début de la fantaisie chromatique de Jean-Sébastien Bach et maintenant l'adaptation par Jaco Pastorius, toujours en 1981. La fantaisie chromatique de Jean-Sébastien Bach, mais cette fois-ci dans l'adaptation du bassiste Jaco Pastorius en 1981, une basse un peu différente de celle qu'on a entendue jusqu'ici.
Une basse frettée cette fois-ci.
Avec des frettes.
Avec des frettes, donc on entend un peu les frettes sur les cordes.
Puisqu'on parle de solo de basse, en 1979, il enregistre au sein d'un disque de Weather Report un solo qui s'intitule Slang, dans lequel on a quelques effets, Frédéric Manino.
Oui, on va entendre donc des effets de distorsion, on va entendre un looper, un delay.
Le looper, c'est la boucle ?
Le looper, c'est la boucle, c'est ce delay dont il va servir pour ajouter donc plusieurs couches et faire comme un accord sur une courte séquence.
On va laisser les micros ouverts, si vous le voulez bien, Frédéric, comme ça, ça va vous permettre de signaler aux auditeurs les différents effets qu'utilise Jaco Pastorius sur ce solo de basse.
Citation de Donnelly. Là, il va s'approcher des loopers, des mixeurs, delay. Il va créer sa boucle avec quatre pistes. Première voix, deuxième voix, troisième voix, et un effet percussif. Il va jouer dessus, dérouler tout un solo, au début avec beaucoup de riffs de basse, de motifs de basse. On écoute. Il va appuyer sur la distorsion. Et là, c'est Hendrix. C'est harmonique avec saturation. Portrait of Tracy. Il va faire un petit show. Il va poser la basse par terre. Il va aller grimper sur son ampli. Il va sauter à côté de la basse et ça va faire un son comme ça.
Merci Frédéric Monino. Nous y étions à ce concert où Jacob Pastorius s'exprimait en solo, en s'enregistrant lui-même, en s'auto-citant à plusieurs reprises sur ses compositions comme Portrait of Tracy ou sur son emprunt Charlie Parker, Donnelly. On sent ici le compositeur, l'arrangeur, quelqu'un qui est au-delà de l'instrumentiste génial qu'il pouvait être, vraiment un concepteur d'univers, ce qu'il fait dans son grand orchestre Word of Mouth, en utilisant aussi les ressources de l'enregistrement en studio qui à l'époque se développe au début des années 80.
Avec un effet d'un looper, justement, il va créer une ligne de basse et il va l'accélérer, c'est assez rigolo. Il va donner donc, à chacun des improvisateurs qui sont donc, dans son orchestre, Herbie Hancock, Toots Feldman, Peter Erskine et Michael Brecker, le loisir d'improviser totalement juste en écoutant la ligne de basse, sans écouter ce que fait l'autre. Et ensuite, il va mixer tout ça et ça donne ce morceau « Crisis ».
Le début de Crisis, c'est le titre qui ouvre le disque Word of Mouth de Jaco Pastorius en 1981 et précisément à la fin de son itinéraire avec l'orchestre Word of Mouth, Jaco Pastorius revenait aussi à ses premières amours avec The Chicken que l'on entendait enregistrer chez lui en 1968, 13 ans plus tard, et il le reprend avec son orchestre où l'on trouve notamment Peter Erskine à la batterie, Bob Minzer au saxophone, Randy Brecker à la trompette, ça s'appelle toujours bien sûr The Chicken. Chicken, l'orchestre de Jaco Pastorius en 1980 qui reprenait ce thème de Pee Wee Ellis popularisé par James Brown dans les années 60. Frédéric Manino, nous arrivons au terme de cette promenade dans l'univers de Jaco Pastorius. Évidemment, on aurait pu analyser ou explorer d'autres pistes. Aujourd'hui, 26 ans après la disparition de Jaco Pastorius, que reste-t-il de lui, un bassiste, un inspirateur d'univers? Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes musiciens qui apprennent ont envie de travailler dans cette ligne ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà un petit peu derrière nous?
Je crois que les jeunes bassistes, en tout cas, ont entendu tous ceux qui ont été influencés par Pastorius, même s'ils n'ont jamais écouté une note de Pastorius directement. Je crois qu'effectivement, Pastorius a changé complètement le rôle du bassiste, sa place dans le son de l'orchestre et dans les phrases. Ça me paraît certain, oui.
On se quitte, François Lézot et Frédéric Monino, avec un enregistrement du Big Band de Jaco Pastorius, où l'on trouve les solistes Herbie Hancock au piano, Toots Hillmans à l'harmonica, et puis Peter Erskine à la batterie, Otello Monino au steel drum. Ça s'appelle Three Views of a Secret. Nous sommes en 1981. Thank you. Merci beaucoup Frédéric Monino et François Lézot d'être venus ce matin évoquer la personnalité et la musique de Jaco Pastorius. Je signale que votre disque Aran Jaco, Frédéric Monino, a été réédité. Puis il y a un autre disque aussi qui s'intitule All the Way sous votre nom. François Lézot, vous serez en conférence le 19 décembre au Centre des Arts d'Anguin, une conférence sur l'histoire des éléments de la batterie. Frédéric Monino, vous serez en concert le 17 octobre avec François Lézot, également Franck Tortillier, Olivier Kérouriot au vibraphone et à l'harmonica. C'est votre quartet autour de Jaco et ce sera au studio de l'Ermitage à 21h à Paris, donc le 17 octobre, c'est dans deux jours. Le 14 novembre, on vous retrouve à Miramas avec votre quartet All the Way. Le 12 décembre, de nouveau, Aran Jaco, cette fois-ci au Jam à Montpellier. Et puis, on pourra aussi vous écouter le 20 et le 21 décembre au Triton, c'est au Lila, à côté de Paris, dans un hommage à Weather Report. Ça s'appelle Heavy Market. Merci à Jean-Michel Bernot et Alison Ascrisi pour la prise de son. À Léo Duroy qui a accordé le piano, Dorothée Gol m'a aidé à préparer cette émission que Christine Amado a réalisée comme chaque semaine. La semaine prochaine, mon invité sera le saxophoniste Fred Couder. Nous évoquerons l'univers du multi-instrumentiste Roland Kirk. Soyez à l'écoute mardi à 11h. Demain, c'est mercredi, dans le Matin des musiciens. Philippe Cassard vous propose la deuxième partie de son émission autour de l'opus 116 de Brahms. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur francemusique.fr, le site de France Musique. Et bien sûr, je vous engage à vous abonner au podcast.